Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Seigneur, fais-moi justice. Moi, je me conduis parfaitement. Je fais confiance au Seigneur. Je ne risque pas de tomber. Regarde-moi bien, Seigneur. Mets-moi à l'épreuve. Examine le fond de mon cœur. Ton amour est devant mes yeux. Je vis de ta fidélité. Je ne m'assois pas avec les gens faux. Je ne vais pas avec les menteurs. Je déteste la bande de ceux qui font le mal. Je ne m'assois pas avec les méchants. Je lave mes mains pour montrer mon innocence. Et je fais le tour de ton autel, Seigneur, pour te dire merci à pleine voix et raconter toutes tes actions magnifiques. Seigneur, j'aime la maison où tu habites, le lieu où ta gloire est présente. Ne me traite pas comme les coupables. Ne me fais pas mourir comme les assassins. Ils font des choses horribles. Ils se laissent sans cesse corrompre par des cadeaux. Moi, je me conduis parfaitement. Seigneur, délivre-moi, aie pitié de moi. Je marche sur un chemin sûr, et dans les assemblées, je dirai merci au Seigneur. Hier, notre méditation de la parabole du pharisien et du péager nous a rendu attentifs au risque de l'orgueil spirituel, intellectuel, théologique, l'orgueil de celui qui se croit bien, de celui qui se croit heureusement différent des autres. Ce psaume 26 n'est pas l'un de nos favoris. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce psaume 26 ne nous donne-t-il pas l'impression désagréable d'une certaine ressemblance avec le pharisien de la parabole ? Il se dit juste, parfait, je me conduis parfaitement. On pourrait peut-être atténuer un petit peu en disant « je me conduis correctement, je me conduis bien ». C'est peut-être un équivalent raisonnable du terme qu'il emploie. « Je me conduis bien ». Il affirme audacieusement qu'il ne risque pas de tomber. Il est prêt à subir l'inspection divine, qui ne regarde pas seulement les apparences, mais qui regarde au cœur. Il se distingue des autres, et même de manière très ostensible, il se désolidarise des autres, de ceux qui font le mal. Il ne s'assied pas avec eux. Et il va même jusqu'à proclamer qu'il déteste leur assemblée. Au verset 6, par un hasard dont le psalmiste n'est pas responsable, il se trouve pratiquer exactement le même geste que Pilate. Il se lave les mains. Alors ça n'est pas fait pour nous le rendre plus sympathique. Et puis son autre geste, faire le tour de l'autel, il nous intrigue plutôt qu'autre chose. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Quel est ce rite? Les commentateurs eux-mêmes se perdent en conjectures. L'amour pour le temple, ça ne nous convainc peut-être pas beaucoup non plus, l'amour d'un bâtiment. Et puis à la fin du psaume, on retrouve dans l'ordre inverse la dénonciation des autres, ils font des choses horribles, et puis la conduite exemplaire du fidèle. Moi, je vais bien me conduire. Je marche sur un chemin droit. En vous proposant la lecture du psaume 26 après celle de Luc 18, je ne suis pas en train de brutalement vouloir renoncer ou renverser l'ordre canonique qui place le Nouveau Testament après l'Ancien. Mais je voudrais suggérer que les rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament sont des rapports complexes, et que concevoir ces rapports comme si l'Ancien Testament était là uniquement pour être éclairé, révisé par le Nouveau Testament, ne serait qu'une partie de la réalité, parce que l'Ancien Testament reste, et l'Ancien Testament pose aussi les fondements qui nous permettent de comprendre le message du Nouveau Testament. Il est donc important aussi de lire le Nouveau Testament après l'Ancien. Et une lecture en parallèle de Luc 18, de la parabole de Luc 18 et du psaume 26 peut nous éclairer sur la manière de comprendre la parabole. Et je voudrais vous suggérer d'essayer de surmonter le sentiment de malaise ou de rejet que nous pouvons assez naturellement éprouver à la lecture du psaume 26, d'essayer de surmonter ce sentiment. Et d'abord, une première observation peut peut-être nous aider à nous réconcilier avec ce psalmiste. Il apparaît clairement que cet homme est une victime. Il est victime de l'injustice. Son premier cri, c'est « Fais-moi justice ». Vous pourrez comprendre aussi « Juge-moi de manière équitable ». Et cet appel qui est son problème, cet appel ressurgit à la fin du psaume, et il ressurgit avec encore plus d'insistance, d'urgence, au verset 11. « Délivre-moi, aie pitié de moi ». Nous sommes donc très loin de l'autosatisfaction du pharisien, respecté dans la société. C'est là une vraie prière, une requête pressante, une requête dans laquelle les protestations d'innocence sont celles d'un homme qui est injustement traité, dont l'innocence n'est pas reconnue. Et une requête dans laquelle la dénonciation du mal se concentre sur l'injustice de ceux qui dominent la société, de ceux qui écrasent l'innocent. Ils se laissent corrompre par des cadeaux, ils mentent, ils sont faux. L'auteur du psaume est un plaignant. Et récuser ces protestations d'innocence, ou même les relativiser, comme nous serions assez naturellement tentés de le faire, en disant, après tout, est-ce qu'il a vraiment raison? Est-ce qu'il est si innocent que cela? Qui est vraiment innocent? Ou considérer avec méfiance cette opposition si vive qu'il trace entre les bons et les méchants? Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à un déni de justice? C'est renvoyer le plaignant. C'est contester qu'on puisse se plaindre à bon droit. C'est contester qu'on puisse réclamer justice. Or, le livre des psaumes et bien d'autres passages dans l'Ancien Testament, c'est un des traits quand même assez spécifique de l'Ancien Testament, et c'est là qu'il nous faut l'Ancien Testament. Avec le Nouveau Testament, il nous manque une partie de la révélation. C'est caractéristique aussi du livre de Job. Tous ces passages nous confirment que Dieu, le Dieu qui se révèle dans l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, ce Dieu est quelqu'un qui accueille la plainte. Un Dieu qui ne veut pas que la plainte soit étouffée, relativisée. Bien sûr, pas n'importe quelle plainte, mais il y a une plainte, des plaintes que Dieu accueille. Alors, est-ce que notre gêne à l'égard du psaume 26 ne risquerait pas de ressembler à celle des trois amis de Job, qui s'offusquent de ces plaintes? Les trois amis de Job ne sont pas des méchants bornés qui pensent que parce que leur ami souffre, c'est parce qu'il a commis une faute. Ils pensent que c'est un juste qui a besoin d'être encouragé, et ils sont scandalisés parce que ce juste se plaint. C'est après qu'ils en viennent à l'accuser. Ils lui font remarquer qu'il a tort de faire tout ce scandale, de se croire juste. Personne n'est parfait. Donc, si Dieu ne trouve aucune satisfaction dans l'autosatisfaction du pharisien de la parabole, soyons assurés que Dieu écoute les protestations d'innocence du psaume 26. Et ne confondons pas les deux. La différence de situation nous rend déjà attentifs au risque de les confondre. D'un côté, un notable respecté, de l'autre, un innocent dont les droits sont bafoués. Cette différence de situation justifie déjà à elle seule que l'on ne confonde pas les deux, mais je vous propose de prolonger encore notre réflexion. Si la plainte peut être justifiée, si la protestation d'innocence peut trouver accès auprès de Dieu, n'est-ce pas parce qu'il y a une vérité, un droit, une justice objective? Dieu n'est pas invoqué ici dans ce psaume comme le Dieu de tendresse, le Père de tendresse, sensible à la misère, à la détresse de ses créatures, qui prend pitié de ses créatures en proie au malheur. Bien sûr, c'est un des thèmes majeurs de la révélation biblique. Ce registre est très présent dans les psaumes, l'appel à la pitié de Dieu. Et l'auteur du psaume 26 lui-même, pour faire sentir tout le tragique de sa situation, finit par recourir lui aussi à ce registre, comme en désespoir de cause, et pitié de moi. Mais ce n'est pas tant à la pitié de Dieu qu'il fait appel qu'à sa justice. Et ce que Dieu est appelé à vérifier, ce n'est pas tant l'étendue de sa souffrance que le bien fondé de sa cause. Regarde-moi bien. Mets-moi à l'épreuve. Examine le fond de mon cœur. Il y a donc une vérité objective, vérifiable. Et ceci est très important lorsqu'on parle de dialogue, comme nous essayons de le faire au cours de ce colloque. Le pharisien nous rend attentif à un travers, à une disposition d'esprit qui bloque toute possibilité de dialogue ou qui le fausse. Je suis le meilleur et j'en suis fier. Remarquons d'ailleurs qu'il se le dit à lui-même. Ce sont des choses que on ne peut guère dire aux autres si on a un petit peu de bon sens. Mais la critique du pharisien, qui est tellement en phase avec l'air du temps. Pas le pharisien, la critique. Cette critique du pharisien, elle pourrait facilement faire le lit d'un relativisme assez général, où il serait interdit de chercher à avoir raison, interdit de viser une vérité objective. Et le psaume 26, pour autant que nous y soyons attentifs, ce psaume rééquilibre la perspective en nous rendant attentifs aux victimes. Il n'y a que les dilettantes qui n'aient pas besoin de la vérité. Les victimes ont besoin de la vérité, un besoin vital. Et puis aussi à cette quête ardente de vérité, sans laquelle le dialogue n'est qu'un bavardage, plus ou moins poli. L'auteur du psaume est-il notre frère ? On en a parlé hier après-midi. Sommes-nous des frères ou pas ? L'auteur du psaume 26 est-il notre frère ? Je suggérerais même qu'il pourrait être notre maître. Et je voudrais relever quelques traits. Pour terminer, sa protestation d'innocence, je me conduis bien. Elle est tout de suite appuyée sur la foi. Je me conduis bien, je fais confiance au Seigneur. Et c'est aussi sur cette confiance que s'appuie son intention de ne pas faiblir. Je fais confiance au Seigneur, je ne vais pas faiblir. Le triple appel au contrôle divin. Regarde-moi. Mets-moi à l'épreuve, examine le fond de mon cœur. C'est tout le contraire de la suffisance du pharisien. Lui n'a pas besoin de regard extérieur, il sait qu'il est bien. Le psalmiste, lui, s'offre avec confiance, avec une insistance touchante au regard pénétrant de Dieu. Et que doit voir Dieu lorsqu'il regarde le fond de son cœur ? Il voit le regard que le fidèle porte vers l'amour de Dieu. Ton amour est devant mes yeux. Les regards se croisent. Je vis de ta fidélité. Le refus de s'asseoir en mauvaise compagnie nous apparaît un peu rustique. Mais n'est-ce pas une décision courageuse? Lorsque ces gens faux, ces méchants, ces menteurs tiennent le haut du pavé. Son innocence, elle n'est pas un sujet de satisfaction personnelle. Elle est tournée vers la louange de Dieu, vers la reconnaissance. Et c'est là-dessus que se termine le psaume. Il y a un contraste frappant entre le pharisien qui commence par exprimer une forme de reconnaissance, « Je te rends grâce de ce que », mais dont le discours ensuite est occupé de lui-même. Alors que le psalmiste commence par dire « Je me conduis bien », mais tout cela doit conduire à la louange du Seigneur dans les assemblées. Je remercierai le Seigneur. Puissions-nous apprendre de lui ce matin la confiance au Seigneur, l'ouverture à son regard, le courage d'une conviction ferme et cette orientation vers la louange.